près 20 minutes, ce qui va laisser le temps ensuite pour les questions. Donc une série de conférences dont la thématique principale, c'est des approches innovantes pour cibler le cancer. Donc je vais intervenir le premier avec une conférence qui s'intitule « Nanosciences et cancer ». Ensuite, le professeur Jean-Luc Duroux de l'Université de Limoges interviendra avec un titre qui s'intitule « Molécules extraites de plantes à activité anticancéreuse ». Et puis ensuite, le professeur Valérie Thierry de l'Université de La Rochelle qui nous parlera du potentiel des produits de la mer dans le traitement du cancer. Je commence ? Très bien. Donc, je travaille dans une unité de recherche dont l'activité principale est la conception de nouvelles molécules pour synthétiser des nouveaux agents anticancéreux. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous montrer ce que les nanosciences peuvent apporter au traitement du cancer. Alors, en guise d'introduction, voici les chiffres qui ont été fournis par l'Organisation mondiale de la santé et par l'Institut national du cancer concernant la mortalité par cancer en France. On peut voir sur ce... Il n'y a pas de pointeur laser ? Ah, excusez-moi. Voilà. Donc si on regarde l'évolution du nombre de cas de cancer en France entre 1980 et 2008, eh bien on peut voir que en fait, le nombre de cas a quasiment doublé, en fait, passant de 170 000 cas en 1980 pour atteindre plus de 330 000 cas en 2008. Et si on regarde aussi l'évolution de la mortalité, eh bien on peut voir qu'entre 1980 et 2008, on a enregistré 20 000 décès supplémentaires. En France, près de la moitié des décès par cancer sont liés à quatre types de pathologies. Premièrement, le cancer du poumon, qui est le cancer le plus meurtrier, les cancers colorectaux, et puis deux cancers hormonodépendants, le cancer de la prostate chez l'homme et le cancer du sein chez la femme. Alors bien que le cancer du poumon soit le plus meurtrier, il touche particulièrement les hommes, et la première cause de mortalité par cancer chez la femme demeure encore aujourd'hui le cancer du sein. Si on regarde les estimations fournies par l'Organisation mondiale de la santé quant à l'évolution de la mortalité par cancer dans le monde, eh bien on peut s'apercevoir que ces estimations sont extrêmement pessimistes, avec en fait une mortalité dans le monde de plus de 7 millions de personnes en 2005, ce qui représente 13% des décès globaux. En 2010, le cancer est devenu la première cause de mortalité en France, dépassant les maladies cardiovasculaires. Et vous voyez que l'OMS estime qu'en 2015, eh bien, 9 millions de personnes succomberont à cette maladie et que ce chiffre sera porté à plus de 11 millions à l'horizon 2030. Alors bien évidemment, au cours de ces dernières années, un certain nombre de thérapies ont été développées afin de lutter contre cette maladie. Et parmi les thérapies qui sont les plus utilisées, on trouve la chirurgie, la radiothérapie et également la chimiothérapie. D'une manière très basique, la chimiothérapie anticancéreuse est un traitement qui consiste en l'administration de molécules qu'on appelle aussi des drogues ou des agents cytotoxiques qui agissent sur les cellules cancéreuses pour les détruire. Et en fait, la chimiothérapie, si elle est efficace, peut être un moyen de traitement extrêmement intéressant puisque la chimiothérapie pourrait permettre de lutter contre les tumeurs solides, hein, qui sont des cancers localisés dans un organe, le cancer du sein par exemple ou le cancer du poumon. Mais la chimiothérapie permet aussi de lutter contre les tumeurs liquides telles que les lymphomes ou les leucémies et aussi contre les cancers métastasés. Cependant, le problème majeur de la chimiothérapie anticancéreuse aujourd'hui réside dans les effets secondaires qu'elle entraîne. Quasiment tous les médicaments qui sont utilisés aujourd'hui cliniquement entraînent des effets secondaires qui sont la principale limitation à ce type de thérapie. Alors pourquoi est-ce que les agents anticancéreux entraînent ce type d'effets secondaires ? Eh bien parce que la plupart des agents anticancéreux qui ont été utilisés jusqu'à aujourd'hui sont des agents cytotoxiques, ça veut dire que c'est des tueurs de cellules, et ces molécules sont incapables de discriminer, de faire une différence entre les cellules saines et les cellules cancéreuses. Ainsi, lorsqu'on utilise un agent anticancéreux représenté ici en rouge, cet agent anticancéreux va effectivement détruire les cellules tumorales pour engendrer des effets thérapeutiques, mais va également détruire des cellules saines pour engendrer des effets secondaires. Et on voit bien qu'augmenter l'efficacité de la chimiothérapie anticancéreuse aujourd'hui, c'est augmenter le poids des effets thérapeutiques tout en minimisant le poids des effets secondaires. Et en d'autres termes, augmenter l'efficacité de la chimiothérapie anticancéreuse, c'est augmenter la sélectivité des traitements. Alors voici Sur cette diapositive, l'arsenal thérapeutique qui a été utilisé depuis le début des années 40 pour lutter contre le cancer, on voit qu'on a utilisé des molécules naturelles issues de plantes, représentées en vert ici, des molécules issues de micro-organismes représentées en rouge, des molécules synthétiques représentées en jaune. Et il faut bien admettre que pendant presque 50 ans, on a utilisé des molécules qui sont des armes de destruction massive, c'est-à-dire qui sont incapables de faire la différence entre les cellules saines et les cellules cancéreuses. Il a fallu attendre 1997 pour voir émerger la première thérapie ciblée qui a donné lieu au développement de nouvelles molécules avec des activités plus sélectives. Aujourd'hui, si on regarde les types de molécules qui sont utilisées dans des thérapies ciblées, on trouve premièrement des inhibiteurs d'enzymes. Alors, les enzymes, en fait, ce sont des catalyseurs qu'utilisent les cellules pour transformer des molécules en d'autres molécules. Et cette transformation chimique est essentielle à la survie de la cellule. Évidemment, si on utilise un inhibiteur qui va bloquer l'action de cette enzyme, donc de ce catalyseur, eh bien, ça va perturber le fonctionnement de la cellule cancéreuse et, dans le meilleur des cas, entraîner sa destruction. Alors, un exemple très intéressant de ce genre d'inhibiteur d'enzyme, c'est l'imatinib, qui est un inhibiteur de tyrosine kinase, qui est aujourd'hui utilisé dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique et qui est un médicament extrêmement efficace qui entraîne peu d'effets secondaires. La deuxième catégorie de thérapie ciblée, c'est les anticorps monoclonaux. Alors, ces anticorps monoclonaux vont être capables de se fixer sur des récepteurs membranaires qui sont surexprimés à la surface des cellules tumorales, et comme les inhibiteurs d'enzymes, ces anticorps se fixant sur ces récepteurs vont entraîner un dysfonctionnement de la cellule tumorale et conduire, dans le meilleur des cas, encore une fois, à sa destruction. Alors, pour être tout à fait honnête, à part dans le cas de l'imatinib, qui est vraiment un traitement très efficace, la plupart des molécules ciblées qui ont été utilisées jusqu'à aujourd'hui cliniquement permettent de ralentir la progression de la tumeur, mais ne permettent pas d'éradiquer la totalité des cellules cancéreuses. Et en fait, ce constat a donné lieu à des travaux de recherche qui ont conduit à de nouvelles thérapies ciblées potentielles, et ces thérapies sont regroupées sous l'appellation de ciblage thérapeutique. Alors, de façon très basique, le ciblage thérapeutique consiste à utiliser un vecteur non toxique qui va être capable de transporter dans l'organisme de puissants agents anticancéreux, et ce vecteur va être programmé à la fois pour reconnaître une spécificité tumorale et conduire à la libération de l'activité antitumorale uniquement lorsque la tumeur aura été détectée. Sur cette diapositive, on voit bien les avantages que représente une thérapie sélective par rapport à une chimiothérapie classique, dans laquelle, en fait, c'est directement l'agent cytotoxique qui est introduit dans l'organisme. Alors évidemment, celui-ci va être réparti d'une manière stochastique, dans tout le corps, et évidemment, celui-ci va avoir un effet thérapeutique lorsqu'il va être localisé au niveau de la tumeur représentée ici en violet, mais va engendrer des effets secondaires lorsqu'il va être localisé dans les tissus sains. Lorsqu'on utilise un vecteur non toxique, eh bien on va pouvoir confiner l'activité cytotoxique représentée ici en rouge au niveau de la masse tumorale grâce à des processus de reconnaissance et d'activation du vecteur efficaces. Alors, évidemment, pour que ce ciblage thérapeutique soit possible, il faut qu'il y ait des éléments qui vont permettre au vecteur de différencier les tumeurs des tissus sains. Si on regarde ces différents éléments, on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui sont situés au niveau des cellules tumorales et des éléments qui sont situés dans leur micro-environnement, c'est-à-dire dans l'espace extracellulaire à proximité de ces cellules cancéreuses. Les cibles potentielles au niveau des cellules tumorales, eh bien, sont des récepteurs ou des antigènes qui sont surexprimés à la surface des membranes des cellules cancéreuses. Et puis, dans le micro-environnement tumoral, on trouve des enzymes qui sont dans ce micro-environnement et qui ne se trouvent pas dans le micro-environnement des cellules saines. Un pH, une acidité plus importante au niveau du micro-environnement des tumeurs par rapport à ce qu'on peut trouver dans les tissus sains. Un potentiel réducteur plus important. Et puis également, il y a des spécificités structurales ou architecturales qui font que, si vous regardez sur cette photo, les tissus sains apparaissent de façon lisse, alors que les tissus cancéreux apparaissent avec de larges cavités. Et ça, c'est un point que je développerai plus particulièrement dans les prochaines diapositives. Alors, qu'est-ce que les nanosciences peuvent apporter comme avantage dans le cadre du traitement du cancer ? Les nanosciences, en fait, ça concerne l'étude des phénomènes observés pour des objets dont la taille est de quelques nanomètres et dont les propriétés découlent spécifiquement de cette taille nanométrique. Alors, un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Hein. Vous voyez, c'est situé ici. En gros, c'est 5000 fois plus petit qu'un globule rouge et ça représente à peu près la taille de la largeur de la double hélice d'ADN. Donc, on comprend bien que les nanosciences, c'est une question de taille. Qu'est-ce que cette notion de taille peut apporter en termes de sélectivité dans le cadre du traitement du cancer ? Eh bien, si je reprends les différences structurales que j'ai évoquées tout à l'heure, on peut voir que les tissus sains sont lisses parce que, en fait, les cellules qui constituent la paroi des vaisseaux sanguins, qu'on appelle les cellules endothéliales, sont toutes bien alignées avec une interstice entre les cellules qui est de l'ordre de 2 nanomètres. Si on regarde l'architecture de ces cellules endothéliales, donc les cellules qui constituent les vaisseaux des tissus cancéreux, eh bien, ces cellules sont mal alignées, elles s'orientent dans des directions d'une manière anarchique et ça laisse apparaître de larges cavités qui sont avec des tailles de l'ordre de 100 à 1200 nanomètres. Donc, lorsque on utilise au cours des chimiothérapies anticancéreuses des petites molécules, ces molécules sont suffisamment petites pour pouvoir infiltrer à la fois les tissus sains et à la fois les tissus cancéreux, ce qui entraîne, lorsqu'ils infiltrent les tissus sains, des effets secondaires. En revanche, si on utilise des macromolécules qui vont avoir une taille largement supérieure à 2 nanomètres, eh bien celles-ci vont être incapables de pénétrer dans les tissus sains. En revanche, elles vont pouvoir pénétrer entre les interstices des cellules endothéliales des tissus cancéreux. En outre, les tissus sains ont un drainage lymphatique qui est efficace pour éliminer en fait, les déchets, alors que en fait, les tissus cancéreux possèdent peu ou pas ce drainage lymphatique. Ce qui fait que les macromolécules qui vont pouvoir s'accumuler dans les tissus cancéreux vont être retenues d'une manière accrue. La combinaison de ces deux effets, l'accumulation et la rétention accrue, c'est ce qu'on regroupe sous l'appellation d'effet EPR, en anglais Enhanced Permeability and Retention. Alors, cette perméabilité accrue des tissus cancéreux a été exploitée pour la synthèse de vecteurs macromoléculaires. Alors, vous voyez ici, c'est l'Abraxane. C'est un vecteur macromoléculaire qui est constitué du paclitaxel. Le paclitaxel, c'est une petite molécule qui est utilisée chez l'homme depuis le début des années 90 et qui a été efficace pour le traitement de nombreuses tumeurs solides et tumeurs circulantes. Et en fait, lorsque on enrobe ce paclitaxel avec une molécule d'albumine, l'albumine, c'est une protéine que l'on a tous, hein, c'est une protéine plasmatique, eh bien, on obtient des nanoparticules d'albumine qu'on appelle l'abraxane. Ces nanoparticules d'albumine, alors l'albumine, c'est une protéine qui possède un diamètre de plus de 7 nanomètres. Donc, si on associe plusieurs molécules d'albumine, hein, entre elles, vous voyez qu'on a des nanoparticules qui sont de l'ordre de 50 à 100 nanomètres. Cette molécule a été d'abord testée sur des souris chez lesquels on avait implanté des tumeurs humaines. Et vous pouvez voir sur cette diapositive si on mesure l'évolution de la masse tumorale en fonction du temps, eh bien, si la tumeur n'est pas traitée, vous voyez que le volume grossit d'une manière importante très rapidement. Si on utilise du paclitaxel, eh bien, on ralentit la croissance tumorale. Et si on utilise une dose équitoxique d'Abraxane, eh bien, vous voyez que dans ce cas-là, on obtient une régression totale et durable de la masse tumorale. Dans ce cas-là, c'était le traitement d'une tumeur mammaire. Alors, cette molécule, bien sûr, est utilisée chez l'homme maintenant depuis 2005 dans le cadre du traitement du cancer du sein métastatique. Et voilà les résultats qui ont été obtenus. Le paclitaxel permet d'obtenir une réponse. Alors, une réponse, c'est-à-dire que, en fait, on arrive à limiter la progression tumorale dans 16% des cas. Et l'Abraxane permet de limiter la progression de la tumeur dans 31% des cas. Donc vous voyez qu'ici, il y a un bénéfice thérapeutique non négligeable. Alors, on vient de voir que les nanotechnologies peuvent être utilisées pour le traitement ciblé du cancer en raison d'une question de taille, mais il y a aussi quelque chose qui est important dans l'augmentation de la taille des molécules qu'on peut synthétiser, c'est l'augmentation de la complexité. Plus une molécule va avoir une taille importante, plus elle va pouvoir avoir une structure complexe. Et à partir d'un certain degré de complexité, eh bien, on va être capable d'inscrire dans la structure de la molécule un programme qui va déterminer son comportement. Et en faisant ça, on va pouvoir alors inscrire un codage qui va permettre à la molécule de se comporter d'une façon intelligente, entre guillemets, c'est-à-dire qui va pouvoir détruire sélectivement les cellules cancéreuses en évitant de détruire les tissus sains. Alors, évidemment, il y a un certain nombre d'approches qui sont développées dans ce sens en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, je vais simplement parler des résultats et des travaux qu'on a menés dans notre laboratoire à l'Université de Poitiers. Alors, tout d'abord, on a développé ce genre de vecteur. Je suis chimiste organicien, je n'ai pas résisté en fait, au plaisir de vous montrer des molécules. Alors, vous voyez ici en rouge, c'est une anthracycline, c'est la doxorubicine qui est utilisée depuis 1969 pour le traitement des tumeurs solides, notamment tumeurs du sein, et également des tumeurs circulantes comme les leucémies. Le problème de cette molécule représentée en rouge, c'est que elle engendre une cardiotoxicité cumulative qui est la principale limitation à son utilisation. Si jamais à cette molécule, on rajoute ici, vous voyez, cette partie verte ici et cette partie bleue, eh bien, on éteint la toxicité de la doxorubicine. C'est ce qu'on appelle le vecteur. Et vous voyez que dans ce cas-là, le vecteur est sur off parce qu'il est non toxique. En revanche, si cette molécule, ce vecteur, rencontre une enzyme, en l'occurrence la bêta-glucuronidase, qui est localisée sélectivement dans le micro-environnement des tumeurs, eh bien, l'enzyme va engendrer la coupure, voyez, entre la partie verte et la partie bleue ici. Et en fait, ce signal va se transmettre jusqu'à la doxorubicine. En fait, la partie bleue ici va agir comme un moteur moléculaire qui, dans des conditions particulières, une fois que la tumeur aura été détectée, va être capable d'expulser l'agent actif et donc de régénérer ici sa cytotoxicité. Vous voyez que ici, eh bien, l'agent actif est devenu sur la position allumée, c'est-à-dire que de nouveau, il a une activité anticancéreuse. Alors voilà les résultats avec ce vecteur qui ont été obtenus, vous voyez, dans le cadre du traitement de différentes tumeurs humaines implantées chez des souris immunes. Dans ce cas-là, on a les résultats pour une tumeur du sein, tumeur de l'ovaire, tumeur du côlon et tumeur du poumon. En vert, vous pouvez voir l'évolution du volume de la tumeur en fonction du temps lorsque la tumeur n'est pas traitée. En rouge, lorsque la tumeur a été traitée avec l'agent anticancéreux seul, la doxorubicine. Et puis en bleu, lorsque la tumeur a été traitée avec le vecteur. Et vous pouvez voir que dans tous ces cas, eh bien, le vecteur est plus efficace que la doxorubicine avec deux résultats qui sont particulièrement remarquable dans le cadre de cette étude. Tout d'abord, une régression totale et durable d'une tumeur mammaire. Et puis, ici, une efficacité sur une tumeur du poumon, alors que la doxorubicine, elle, ne présente aucune efficacité sur ce type de tumeur, simplement parce que, avec le vecteur, on arrive à injecter des doses moins toxiques qui permettent d'accumuler sélectivement une concentration plus importante d'agents anticancéreux dans la zone à traiter, ce qui conduit à une efficacité supérieure. Alors, on a aussi développer une nouvelle génération de vecteurs ici, en fait, qui va agir comme un cheval de Troie. C'est-à-dire que ces vecteurs vont être capables de leurrer les cellules tumorales. Les cellules tumorales vont les intégrer en leur sein. Et en fait, l'activité anticancéreuse ne va être déclenchée que lorsque le vecteur va se trouver à l'intérieur des cellules cancéreuses. Alors voilà comment ce vecteur fonctionne. Alors il est composé de quatre parties, hein, vous voyez, ce que permettent les nanotechnologies de constituer en fait des vecteurs avec des parties, des modules qui vont fonctionner, qui vont chacun avoir une fonction. On a ici un déclencheur, cette partie verte qui va être capable de déclencher l'activité antitumorale, l'effecteur qui est ici la drogue. Au milieu, on a un moteur moléculaire qui, lorsque le signal du déclenchement de l'activité anticancéreuse va être allumé, va conduire à l'expulsion de l'agent actif. Et puis ici, un détecteur qui va être capable de reconnaître une spécificité tumorale. Lorsque le vecteur va reconnaître un récepteur membranaire qui est surexprimé à la surface des cellules cancéreuses, eh bien, cette interaction récepteur-ligand va engendrer l'internalisation de l'ensemble du dispositif. Pourquoi ? Parce que la cellule cancéreuse utilise ses récepteurs pour absorber des substances qui sont nécessaires à sa survie. Et donc, là, le détecteur va leurrer la cellule cancéreuse. La cellule cancéreuse va penser que c'est quelque chose de bien pour elle et va internaliser cette substance. Quand cette substance va être internalisée, elle va ensuite être activée par les enzymes qui se trouvent au sein de la cellule cancéreuse pour conduire à l'expulsion de l'agent cytotoxique et donc de déclencher son activité anticancéreuse au niveau du noyau. Alors, voilà, hein, je vous montre les différents vecteurs de ce type que nous avons synthétisés au laboratoire. Alors ici, vous avez le vecteur de première génération qui est capable de vectoriser une molécule de doxorubicine. Et puis ça, c'est le vecteur de deuxième génération, en fait, avec le détecteur, le déclencheur, le moteur moléculaire. Et ici, en noir, vous voyez, on a ajouté un module d'amplification du signal qui va être capable, à partir d'un seul signal enzymatique, de libérer non plus une molécule de doxorubicine, mais deux, ce qui va permettre de multiplier l'activité cytotoxique de ce vecteur. Alors ça, c'est un vecteur qui est testé actuellement dans le cadre du traitement de la leucémie myéloïde aiguë, qui est la leucémie la plus courante chez l'adulte, et c'est une leucémie qui est très dangereuse. Aujourd'hui, le traitement classique, c'est un traitement à base de doxorubicine. Le problème, c'est que la doxorubicine, elle détruit effectivement les cellules cancéreuses, mais elle détruit aussi les globules blancs et elle a une cardiotoxicité cumulative. Donc, vous voyez, nous, on a pris nos vecteurs et on a comparé sur des cellules de patients acceptés au CHU de Poitiers et atteints de la leucémie myéloïde aiguë l'efficacité de nos vecteurs par rapport à l'efficacité de la doxorubicine. Donc, vous voyez que ici, la doxo. Alors, vous voyez, ici, on voit le nombre de cellules qui sont détruites par l'action de la doxorubicine. En rouge, ce sont les cellules tumorales qui sont détruites par la doxorubicine. Donc 98% des cellules sont détruites par la doxorubicine. Et en bleu, ce sont les globules blancs qui sont détruits par cet agent anticancéreux. Donc vous voyez que la doxorubicine ne fait pas la distinction entre les cellules tumorales et les globules blancs. Si on prend le vecteur de première génération, vous voyez qu'on a une activité de 72% et on est très sélectif des cellules tumorales puisqu'on ne détruit pas les globules blancs. Par contre, si on utilise le vecteur de seconde génération, vous voyez qu'on arrive à obtenir au niveau de la destruction des cellules tumorales une efficacité qui est comparable à celle de la doxorubicine sans avoir les effets secondaires qu'on peut enregistrer avec l'agent antitumoral au niveau des globules blancs. En conclusion, vous voyez que dans le passé, en fait, le traitement du cancer par chimiothérapie anticancéreuse a utilisé des armes de destruction massive, comme par exemple la doxorubicine et le paclitaxel, ce qui engendrait des effets secondaires importants, ce qui représentait la principale limitation du traitement, et puis qu'aujourd'hui et dans le futur, on va vers des traitements ciblés qui utilisent les connaissances apportées par les nanosciences, mais vous comprenez qu'aujourd'hui, afin d'arriver à un traitement efficace du cancer, la route est encore longue. Je vous remercie de votre attention.
Monsieur Duroux, si vous voulez.
Bien, bonsoir. Je vais vous parler donc des molécules extraites de plantes à activité anticancéreuse. C'est-à-dire, je vais m'occuper, si je ne peux pas repasser ta diapo, mais des petites cases vertes qui étaient tout à l'heure dans le diaporama de Sébastien Papou. Donc, je suis Jean-Luc Duroux, je suis responsable d'une équipe à l'Université de Limoges qui s'appelle donc Chimie des biomolécules, signalisation et processus tumoraux. Donc, c'est une équipe d'une vingtaine d'enseignants-chercheurs. Vingtaine, je dis comme si je ne savais pas, de 21 enseignants-chercheurs qui travaillent dans des domaines, vous le voyez d'après le titre, qui sont à la fois des domaines de la chimie donc, et de la biologie. Alors, juste quelques chiffres, hein, une diapo donc, de chiffres et après j'enchaînerai. Il faut savoir qu'environ 63% des molécules anticancéreuses sur les 25 dernières années qui ont été travaillées, testées, eh bien, présentent une origine naturelle. Donc moi je vais vous parler d'origine végétale, d'origine naturelle, c'est un petit peu plus large, hein, végétale au sens large, et puis animale également. Également, donc, pour parler des produits naturels, 79 produits naturels ou des analogues de produits naturels, on verra tout à l'heure, sont entrés en phase d'essai clinique dans la période 2005-2007. Et enfin, ces produits d'origine naturelle, même s'ils n'entrent pas directement dans les phases d'essai clinique, apportent toujours des éclairages intéressants au niveau des mécanismes. Hein, c'est ce en quoi ils sont toujours recherchés. Alors, molécules extraites de plantes et activités anticancéreuses, c'est difficile de faire une conférence comme celle de ce soir sans vous parler un petit peu de, je ne sais pas si c'est vraiment l'origine, mais en tous les cas, de deux exemples qui sont assez caractéristiques, donc qui est premièrement l'exemple de la pervenche de Madagascar et des molécules qui ont été extraites de la pervenche de Madagascar, et donc des molécules qui ont été extraites de l'IF, on verra, de l'IF du Pacifique, puis de l'IF d'Europe. Alors, pour les molécules qui sont issues de la pervenche de Madagascar, eh bien, voilà, hein, vous voyez que la pervenche, c'est une jolie petite fleur décorative qui peut exister sous différentes couleurs. On la trouve naturellement dans les régions intertropicales. Et chez nous, elle arrive à pousser puisqu'elle est très décorative. On a bien essayé, mais du coup, la rigueur du climat fait qu'elle est devenue une plante annuelle chez nous. Alors, elle a été utilisée en médecine traditionnelle malgache et c'est du coup ce qui a poussé les chercheurs à s'intéresser à cette plante. Elle possédait donc nombre propriétés, donc anorexigène, antidiabétique, donc j'ai mis coupe-faim, c'est relié, mais aussi des propriétés telles que vermifuge, capacité aussi à soigner les piqûres de guêpe et aussi à désinfecter les plaies. Elle présente, lorsqu'elle était en infusion, des propriétés antipaludiques et diurétiques. Alors l'histoire un peu plus scientifique de cette plante commence en 1957, quand il y a eu des recherches pas forcément coordonnées, mais en tous les cas simultanées, de chercheurs canadiens de l'Université d'Ontario et de chercheurs américains des laboratoires Lilly. Et très rapidement, je crois que tu mettais 1960 dans ton diaporama, effectivement, une mise en évidence d'une activité antileucémique a été découverte. Alors, les molécules qui ont été extraites à partir de cette pervenche, elles viennent des parties aériennes de la pervenche qui facilitent la culture, hein, et l'extraction. Et on a rapidement mis en évidence que ces activités étaient liées notamment à la présence d'alcaloïdes dimères. Donc voilà deux de ces alcaloïdes, comme la vinblastine qui a été mise en évidence en 1963. Et vous voyez, on arrive à extraire 20 grammes par tonne de plantes sèches. Ça peut paraître peu, mais finalement déjà 20 grammes par tonne, c'est correct. La seconde molécule en 1964, la vincristine, eh bien, vous voyez, le rendement est un petit peu plus faible, hein, divisé par un facteur un peu plus que 6. Je vous ai entouré ici les substituants et les groupements ici, et vous voyez que la différence entre ces deux molécules est liée uniquement à ces deux groupements. Hein. Regardez la différence, ici un groupement aldéhyde et ici un groupement méthyle, et c'est ce qui fait la différence d'activité entre ces deux molécules. Alors, à partir de ces deux molécules, on a continué à travailler, mais on a... alors oui, wow, j'avais mis ça, c'est de la chimie, tu m'en voudras pas. Des dérivés hémisynthétiques, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus directement à partir de la plante, mais à partir des molécules qui ont été extraites de la plante, on fait un autre travail de chimie. Et donc, on a réussi à mettre en évidence les propriétés de la vindésine en 1979. Donc, vous voyez, ça fait 15 ans plus tard, toujours les mêmes laboratoires Lilly. Et encore un petit peu plus tard, mais cette fois c'est en France, donc la vinorelbine, avec une structure qui est assez différente hein, des trois précédentes. Vous voyez ici toujours ces trois mêmes groupements. Hein, la différence se faisait uniquement sur ces trois groupements pour les trois premières molécules. Là, une structure qui finalement est assez différente et qui un petit peu plus tard, donc par les laboratoires Pierre Fabre, en tous les cas commercialisée par les laboratoires Pierre Fabre en France. Alors, les indications thérapeutiques des molécules et des spécialités à partir de ces molécules, voilà, hein, vous reconnaissez ici les molécules, les spécialités, les médicaments si vous préférez, et les indications thérapeutiques donc de ces trois spécialités. Et puis pour la quatrième, la vinorelbine, eh bien plus spécifiquement donc dans les cancers bronchiques non à petites cellules et dans le cancer du sein. Voilà, donc ça, c'est la première, le premier exemple, en tous les cas, de molécules extraites de plantes qui ont donné des spécialités appliquées dans le domaine du cancer. L'autre exemple, il est peut-être encore plus parlant, c'est celui de l'IF du Pacifique associé à l'IF d'Europe. Alors, d'un point de vue histoire, c'est un petit peu différent ici, l'origine du travail qui a été fait sur l'IF, puisqu'il n'y avait pas d'indication particulière en médecine traditionnelle sur les produits de l'IF. Par contre, historiquement, eh bien, il était représenté comme un arbre sacré, immortel, avec son bois qui est toujours précieux et qui est très recherché. Et on le trouve souvent dans les cimetières et il correspond donc à un certain symbole de mort. Alors, pas utilisé en médecine traditionnelle, mais malgré tout, on lui connaissait quand même quelques propriétés et depuis longtemps, puisque depuis l'Antiquité, Pline mettait bien en garde contre l'usage des tonneaux qui auraient été faits en bois d'if pour conserver le vin. C'est quand même dommage hein, d'induire une mauvaise réputation pour ces vins d'origine grecque. Et les Grecs anciens pensaient que dormir sous un if était mortel. Nos ancêtres gaulois connaissaient aussi les méfaits, on va dire, de l'if, puisqu'ils enduisaient les pointes de leurs flèches avec la sève de l'if. Et encore aujourd'hui, nombreux cas, nos vétérinaires connaissent bien ça, les animaux d'élevage doivent se méfier des feuilles de l'if, puisque les aiguilles en sont toxiques. Par contre, les oiseaux sont plus malins, ne s'intéressent pas aux aiguilles, mais aux baies. Hein, vous avez vu sur la photo, très rouge, très attirante pour les oiseaux. Il faut quand même faire attention, parce que la chair de la baie est bonne pour les oiseaux, mais la petite graine qui est autour est aussi, elle, très toxique. Enfin, qui est plutôt à l'intérieur, est très toxique. Voilà pour l'histoire... un petit peu maintenant pour la recherche scientifique. Donc là, pas d'indication de médecine traditionnelle qui dit qu'il faut travailler sur l'IF, simplement ces constatations de toxicité. Et en 1960, a été lancé aux États-Unis un programme donc par le NCI, National Cancer Institute, qui fait une étude systématique sur un certain nombre de plantes, dont l'IF. Et très rapidement, eh bien, on a abouti, vous reconnaissez la molécule paclitaxel dont vous a parlé Stéphane tout à l'heure, ou taxol, hein, le nom de la molécule qui est devenu le nom de la spécialité, qui a été isolée à partir de l'écorce donc de l'if du Pacifique, Taxus brevifolia. On va voir que justement le fait que ça soit issu de l'écorce, cet isolement, posait un problème rapidement. Mais je continue ma description historique. Donc, première publication scientifique, il a fallu attendre 10 ans pour avoir donc l'isolement, la publication de la structure et la description des premières propriétés antiprolifératives du taxol. Le mécanisme d'action du taxol a été publié, lui, en 1979. À l'époque, c'était un mécanisme assez original. Je vous en toucherai deux mots tout à l'heure. Et les essais cliniques correspondent au début des années 80, 1983, et donc une utilisation, comme Stéphane nous le disait tout à l'heure, au début des années 90. Alors l'IF du Pacifique, le voilà, c'est ce grand arbre que vous voyez ici sur cette diapositive. Et le taxol, voilà la molécule, on vous l'a présenté tout à l'heure également. Alors cette molécule, c'est chimiquement donc appartient à la famille des diterpènes. Et comme je vous l'ai dit et écrit, elle est issue donc de l'écorce de l'IF du Pacifique. Et justement, le fait qu'elle soit issue de l'écorce eh bien, a provoqué des polémiques lors des premières phases d'essai du taxol. Puisque l'écorce, bien évidemment, si on l'enlève, ça revient à abattre l'arbre. Donc du coup, c'est une source pour le taxol qui était non renouvelable. Et c'est un petit peu embêtant puisque le rendement ici est très faible. Il était de 0,01%. Donc 1 gramme de taxol obtenu, il fallait 10 kg d'écorce sèche. Je vous illustre ça d'une autre façon. Pour obtenir 2 kg de taxol, de paclitaxel, il fallait abattre 12 000 arbres. Et imaginez au début, dans ces années 60 ou plutôt 80, le nombre et la quantité de molécules qui étaient nécessaires pour réaliser tous les essais. Donc du coup, évidemment, disparition rapide de la source, un émoi aux États-Unis et un problème écologique. Et fort heureusement, cette fois, c'est l'Europe qui est venue au secours des États-Unis, puisque des travaux sur l'IF d'Europe, que vous voyez représenté ici, et notamment cette fois donc sur les aiguilles de l'IF. Et c'est ce qui va faire toute la différence avec l'IF du Pacifique, puisque c'est en France, donc à l'Institut de chimie des substances naturelles à Gif-sur-Yvette, eh bien, qu'on a découvert, en travaillant sur ces aiguilles de l'IF d'Europe, cette molécule qui est le désacétylbacatine ou la désacétylbacatine, qui est un précurseur du taxol. Précurseur, ça veut dire que dans la formation du taxol au sein de l'IF, c'est la molécule qui intervient dans l'étape précédente. Le rendement, finalement, vous voyez, il est guère meilleur que celui obtenu avec l'écorce. Il est simplement multiplié par 2. Mais surtout, la différence, au lieu de 10 kg d'écorce pour 1 g, c'est 5 kg d'aiguilles. Et cette fois, donc, une source qui est renouvelable. Donc, bien évidemment, quelque chose qui était fort intéressant. Donc, en continuant sur ces travaux, cette molécule en soi présente peu d'activité antiproliférative. Ce n'est pas cette molécule-là qui est intéressante, mais justement, un petit peu comme tout à l'heure, à partir de cette molécule-là et à partir de travaux d'hémisynthèse, c'est-à-dire on part de ce squelette-là, on part de cette molécule-là, on est arrivé donc à retrouver le paclitaxel. Et puis surtout, mais en plus, conjointement, parmi tous les essais qui ont été réalisés et toutes les molécules qui sont sorties, parce que je ne suis pas moi chimiste organicien, mais je sais quand même que cette réaction-là, le passage de cette molécule-là à celle-là, ne se fait pas comme ça en claquant du doigt et ne se fait pas en obtenant une seule molécule. Et donc, parmi toutes les molécules qui étaient apparues lors des essais pour reformer ce taxol, eh bien, on a découvert cette molécule-là, donc le docétaxel, qui a donné lieu à la spécialité taxotère et qui, en plus, était deux fois plus, et qui est toujours deux fois plus active que le taxol original. Voilà, hein, vous voyez, je vous ai souligné avec ces cercles les différences de structure entre donc, la molécule originale, donc le taxol, et le taxotère. Donc une faible différence de structure et qui permet de multiplier cette activité par deux. Alors, les indications thérapeutiques, on vous en a parlé tout à l'heure, donc je fais très simple. Vous voyez donc la mise sur la commercialisation et l'utilisation de ces deux spécialités, 1993 et 1996, avec les différentes indications. On continue à travailler hein, sur ces molécules-là. J'ai décalé un petit peu. Donc, on a d'abord vu dans cet ordre-là les applications de ces deux spécialités. Et aujourd'hui, donc, on utilise ces deux molécules donc, pour les cancers ORL et le cancer de l'estomac. Alors, le mécanisme d'action, je vous en donne un petit mot. Les deux molécules, hein, ou les molécules qui sont issues de la pervenche ou les molécules qui sont issues de l'IF, eh bien, ont en point commun d'interagir avec la tubuline. Tout à l'heure, je vous disais qu'en 1983, c'était un mécanisme original. Aujourd'hui, 25% des nouveaux candidats aux essais cliniques participent de ce mécanisme, c'est-à-dire avec une interaction avec la tubuline. La tubuline, c'est une protéine, et en se polymérisant, elle va donner ce que l'on appelle les microtubules. Les microtubules, elles ont la propriété de se dépolymériser à leur tour, de se repolymériser, et elles constituent ainsi un réseau dynamique. Je vous passe les détails. Et ce qu'il faut retenir pour nous ce soir, c'est qu'elles interviennent dans la division cellulaire. Et j'insiste bien, parce que sur la diapo suivante, c'est le fait qu'elles aient cette capacité à créer ce réseau dynamique qui intervient dans la division cellulaire. S'il n'y a pas ce réseau dynamique, alors la division cellulaire n'intervient pas. Donc, pour les molécules issues de nos deux plantes témoins ce soir, les alcaloïdes de la pervenche et les diterpènes de l'IF, donc tous les deux ou toutes les deux, utilisent un mécanisme via la tubuline. Alors, je les ai mis en parallèle parce que si elles interagissent toutes les deux avec la tubuline, vous allez voir qu'a priori, les mécanismes sont contradictoires. En effet, les alcaloïdes de la pervenche vont inhiber la polymérisation de la tubuline, c'est-à-dire elles vont empêcher la formation à partir de la tubuline des microtubules. Donc pas de microtubules avec les alcaloïdes de la pervenche. Donc du coup, pas de microtubules, pas de division cellulaire. Pour les diterpènes de LIF, au contraire, ils sont des promoteurs de la polymérisation, c'est-à-dire ils accentuent le passage de tubuline en microtubule. Simplement, le mais, c'est que non seulement ils sont capables d'accentuer cette polymérisation, mais par contre, ils vont stabiliser les microtubules. C'est-à-dire que le processus de dépolymérisation et de repolymérisation qui était indispensable à la création de ce réseau dynamique est bloqué avec les diterpènes de LIF. Donc, peut-être au départ quelque chose qui semble contradictoire, mais au final, on arrive au même résultat, c'est-à-dire une division cellulaire qui est bloquée. Donc voilà, très succinctement, le mécanisme d'action pour ces deux types de molécules. Alors, je vous ai parlé donc de la pervenche et de LIF, parce que historiquement, ce sont quand même deux exemples très importants. Je vais terminer un petit peu en vous présentant ce qu'on fait dans notre équipe de recherche. Pour ça, je reviens un petit peu au départ. Sébastien Papeau vous a présenté ça un petit peu de la même façon tout à l'heure, et sur ce qui se passe au niveau des cellules cancéreuses. Donc vous avez un tissu sain, et s'il y a un stimulus oncogène, quel qu'il soit, eh bien cela va engendrer une initiation de la division cellulaire, mais une initiation de la division cellulaire anarchique avec ces cellules cancéreuses. Donc une multiplication rapide et incontrôlée, et des cellules qui sont peu ou pas différenciées et qui vont du coup migrer dans l'organisme. Avec comme point commun, à chaque fois, c'est ce qu'il nous faut retenir ici par rapport à la suite des diapositives, c'est que les cellules cancéreuses vont échapper aux ordres de vieillissement, aux ordres de mort cellulaire. Et ces ordres de mort cellulaire qui sont adressés aux cellules normales, c'est le phénomène d'apoptose. Donc nos cellules, elles reçoivent normalement, nos cellules normales, un ordre de mort comme les feuilles qui tombent des arbres lorsqu'arrive l'automne. C'est exactement l'apoptose, c'est ça. C'est les cellules qui reçoivent un ordre de mort parce que c'est l'heure. C'est les feuilles des arbres qui tombent à l'automne parce que c'est l'heure. Donc ici, en quelque sorte, un défaut d'apoptose. Alors, les cellules cancéreuses, les traitements généraux type chimiothérapique, eh bien, peuvent agir de deux façons, par deux processus. Premièrement, donc, induire la mort des cellules cancéreuses, et donc, c'est re-enclencher ce processus de mort cellulaire programmée. Donc, c'est ce que je vous ai appelé l'apoptose. La deuxième voie, c'est d'induire la maturation des cellules cancéreuses pour obtenir donc des cellules différenciées qui, cette fois, sont des cellules normales. Donc je trouve, moi, qui ne suis pas un biologiste, finalement que ce processus-là est encore plus extraordinaire, parce qu'on va trouver un moyen de donner un nouvel axe de vie à ces cellules cancéreuses. On les détourne de leur cycle initial qui était néfaste à l'organisme. Alors, l'apoptose cellulaire, c'est un des thèmes de recherche de notre équipe. Donc, cette apoptose cellulaire, je le remets, je suis désolé, je ne suis pas en cours de première année, mais en cours de première année, on est souvent obligé de répéter la même chose, et vous voyez, je me laisse aller à ce penchant-là. Donc, l'apoptose cellulaire, mort programmée de la cellule, présentait lui aussi deux aspects pathologiques. Celui qui nous intéresse ce soir, vous avez compris, donc, c'est un défaut d'apoptose. Et donc, c'est ce qui est impliqué dans les phénomènes de cancer et qui va engendrer une multiplication anormale des cellules. Et vous avez celui qui nous intéresse un petit peu moins ce soir, mais qui n'est pas néanmoins négligeable, bien au contraire, c'est au contraire un excès d'apoptose. Et un excès d'apoptose, cette fois, c'est ce qui est impliqué dans les maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer, et qui va entraîner, cette fois, une mort excessive des neurones dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Alors, je reviens donc à mon apoptose et aux molécules qui sont travaillées dans l'équipe. Donc, on a deux molécules témoins qui sont travaillées depuis quelques années dans l'équipe. Je vais vous présenter ces deux molécules et des résultats très simples à chaque fois, même très anciens, sur ces molécules-là. La première, donc, c'est la diogénine, c'est une dioscorée. Elle est issue donc d'igname et de tubercules d'igname, également de fenugrec. Donc, ça, c'est quelque chose qui est consommé assez largement en Asie. Donc vous avez la formule ici de la diogénine. Tout à l'heure, je vous parlais de diterpène, je vous parlais d'alcaloïde. Ici, c'est un stéroïde d'origine végétale, en comparaison avec les stéroïdes d'origine humaine. Alors, cette diogénine, donc, on a démontré au laboratoire depuis quelques années qu'elle avait donc des propriétés antiprolifératives, donc elle stoppe la prolifération des cellules cancéreuses, et donc des propriétés pour se faire pro-apoptotique, c'est-à-dire elle va engendrer le phénomène d'apoptose, elle va déclencher le phénomène d'apoptose. Donc je vous montre ici une liste de résultats obtenus, hein. Dessous, entre parenthèses, vous avez donc des publications qui sont sorties au labo et des étudiants qui ont travaillé. Vous voyez, hein, les premiers résultats datent de 2001 sur des cellules d'ostéosarcome. Voilà, hein, donc des résultats où ces propriétés ont été mises en évidence sur différentes lignées cellulaires cancéreuses. Alors, un exemple de résultat sur la diogénine, et vous voyez ici, j'ai intitulé la diapo « stéroïde ». Au pluriel, et je vais vous montrer un exemple de relation structure-activité. Alors, sur cette première partie, vous reconnaissez, ou en tous les cas, je vous ai noté ici la diogénine, et on mesure donc la facilité ou la capacité de la diogénine à engendrer, à enclencher ce phénomène d'apoptose. Donc, vous voyez ici, par rapport à des cellules contrôle, où la diogénine n'aura pas été incubée, eh bien, on voit que ce taux d'apoptose a été multiplié par un facteur 5,6. Ce taux d'apoptose, c'est marqué là, et on le mesure en déterminant la fragmentation de l'ADN. Je vous montre un autre stéroïde végétal, ici la smilagénine. Je vous ai souligné en rouge ici la différence de structure entre la diogénine et la smilagénine. Et vous voyez que la seule petite différence entre ces deux molécules, eh bien, c'est la double liaison ici qui manque pour la smilagénine. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on a une régression du taux d'apoptose engendré par la smilagénine, hein, d'un facteur 4 entre la diogénine et la smilagénine. Et finalement, vous voyez même qu'avec ce stéroïde-là, on a peu de différence avec les cellules contrôle où il n'y aura eu aucune drogue qui aura été mise en incubation. Troisième résultat, la sarsapogénine. Alors, au niveau structural, c'est la même chose que la smilagénine, avec juste une inversion ici entre un hydrogène, vous voyez, et un groupement méthyle qui est là, mais qui ne figure pas. Hein, juste une inversion entre les deux. Et vous voyez, finalement, eh bien, on a un taux d'apoptose qui est revenu et qui est même plus fort que celui de la diogénine. Alors, honnêtement, ça fait quelques années qu'on a publié ces résultats-là. Et en préparant la conférence, je suis revenu voir les personnes qui avaient travaillé là-dessus. Mais je leur dis, enfin, quand vous regardez cette diapo, quand même, il manque quelque chose, les enfants. Je leur ai dit, regardez, enfin, ils le savaient très bien, hein, mais regardez-vous plutôt. On se dit que là, j'enlève la double liaison et je diminue beaucoup. J'enlève toujours la double liaison, mais je fais cette inversion-là par rapport à la diogénine et je remonte très fort. J'ai dit, quand même, il aurait fallu mettre une double liaison ici et garder cette structure-là. Bon, ils m'ont dit, ça n'existe pas dans le commerce et on n'a pas eu le temps de rechercher à faire la synthèse. Voilà, tout simplement. Alors, voilà donc un premier exemple. Autre chose, je vais vous montrer cette fois non plus des courbes, mais des photos. La diogénine possède des propriétés particulières. Hein. On ne l'a pas montré donc, pour toutes les molécules qui sont travaillées dans l'équipe, bien au contraire. Et en tous les cas, c'est quelque chose qui marche bien sur ce type de lignée cellulaire, HEL. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est des cellules érythroleucémiques. Alors, on a dit que pour tuer en quelque sorte les cellules, ou en tous les cas pour les éliminer les cellules cancéreuses, il y avait deux façons. Induire l'apoptose, on vient d'en parler, ou induire la différenciation cellulaire. Donc la diogénine, eh bien, elle a un double effet. Donc premièrement, je vous montre ici, c'est la même dose que tout à l'heure, hein, 40 micromolaires. Et on vous a sélectionné ces photos. Vous voyez donc ici par microscope, puis tout simplement, on voit qu'à 40 micromolaires, la diogénine induit la mort cellulaire. Vous voyez, c'est ces cellules-là qui sont en train de mourir, hein, ici et ici, par rapport aux cellules normales. La diogénine donc, a cette particularité, c'est qu'elle est très dose dépendante. Donc ça, c'est des doses qui sont quand même pour des molécules d'origine naturelle, assez importantes. Donc en diminuant les doses, donc à la concentration de 10 micromolaires, on voit que cette fois, c'est le phénomène de différenciation qui est enclenché. Vous le voyez sur ces photos-là, hein, regardez, c'est pris au même temps, là et là. On voit qu'ici, nos cellules normales, eh bien, elles sont en train de grossir. Je vous le montre ici par une technique de coloration, on le voit presque mieux. On voit nos cellules témoins qui sont ici, on voit ici nos cellules qui sont en train de maturer, et finalement, à terme, au bout des 196 heures, la cellule éclate et libère des pseudoplaquettes. On a éliminé des cellules cancéreuses de cette façon-là. Une autre molécule qui est travaillée également donc dans l'équipe, qui nous sert de témoin, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ces deux molécules, on en cherche d'autres, et quand on a des molécules efficaces, eh bien on les fait subir tous les tests que l'on a fait des années auparavant sur ces molécules. Alors l'acide ursolique, c'est une molécule de la famille des éricacées. La voilà, cette fois c'est un triterpène, et elle est issue, donc les éricacées, hein, le premier exemple c'est la bruyère, il y en a beaucoup en Limousin, vous savez que je viens de Limoges. On la retrouve aussi dans les rhododendrons, hein, voilà la famille des éricacées, mais on les retrouve aussi dans d'autres plantes comme des fruits, comme la myrtille et bien évidemment comme la pomme, hein, la pomme du Limousin encore. Et dans la pomme, eh oui, hein, ça marche bien des fois, hein, quand on a envie que ça marche, yes, ça marche. Et la pomme, elle est très intéressante pour nous parce que vraiment, elle possède de grandes quantités d'acide ursolique. Hein. Nous, on est arrivé à extraire par pomme jusqu'à 50 mg d'acide ursolique. Donc c'est énorme. Vous vous rappelez tout à l'heure, 1 gramme hein, pour 10 kg d'écorce. Là, pour une pomme, on en est déjà à 50 mg. Et l'essentiel, c'est dans les épluchures, c'est dans la peau de la pomme. Donc achetez des pommes propres, lavez-les. Hein, pour vous aurez tous les bienfaits de l'acide ursolique. Alors l'acide ursolique, donc je vais un petit peu plus vite hein, pour ne pas rallonger. Je voulais juste vous montrer ces deux courbes. Finalement, c'est ce qu'on fait au départ quand on veut tester une molécule sur son activité antiproliférative. C'est-à-dire qu'on prend la molécule, on prend des lignées cellulaires et on fait des variations de concentration de la molécule. Donc c'est ce que vous avez ici pour notre acide ursolique sur une lignée cancéreuse colorectale et ça sur une lignée cancéreuse de la peau. Vous voyez donc en fonction de la dose, eh bien, on a stoppé la prolifération cellulaire avec des doses ici de 35 micromolaires et sur les cellules B16, eh bien, une concentration de 15 micromolaires suffit. Donc voilà, ça c'est le premier test que l'on fait nous dans l'équipe quand on veut regarder l'activité d'une molécule, on fait ces tests d'activité antiproliférative. Voilà, donc aujourd'hui dans l'équipe il est utilisé pour inducteur d'apoptose, je vous ai dit qu'on travaillait beaucoup sur les mécanismes liés à l'apoptose, c'est pas le lieu de vous parler de ça ce soir, donc pour nous c'est devenu un inducteur d'apoptose et après on travaille sur l'apoptose. Alors, juste un exemple de photo aussi hein, pour vous montrer. Voilà, donc sur des cellules de mélanome, une autre façon de mettre en évidence donc, les cellules qui rentrent en apoptose. Et donc, je terminerai par une phrase qu'Alain Simon, qui travaille depuis très longtemps sur l'acide ursolique, dit une pomme par jour éloigne le docteur. Ça pourrait être le sujet d'une autre conférence sur les aspects de prévention et de certaines molécules, même si c'est très controversé aujourd'hui. En tous les cas, en prévention, beaucoup de molécules issues des plantes pourraient être utilisées également. Voilà, je vous remercie.
Bonjour, je me présente, Valérie Thierry, je travaille à l'Université de La Rochelle dans le laboratoire LIEN, Littoral Environnement Société. Je dirige l'équipe Molécules à activité biologique et ce soir, je vais vous présenter l'apport des molécules marines en cancérologie. Le cancer est une maladie mondiale qui touche principalement les pays développés. Suivant l'Organisation mondiale de la santé, on estime que d'ici à 2030, 17 millions de personnes décéderont d'un cancer. En France, depuis 2004, le cancer est devenu la première cause de mortalité devant les maladies cardiovasculaires et c'est également un problème majeur de santé publique. Donc le cancer est une maladie qui se caractérise par une multiplication anarchique de cellules anormales et ces cellules ont perdu leur capacité d'apoptose, c'est-à-dire de mort cellulaire. Ces cellules ont également une capacité à migrer vers d'autres organes pour donner naissance à de nouvelles tumeurs que l'on appelle encore des métastases. Les causes du cancer peuvent être multiples. Le cancer peut provenir d'une modification du capital génétique des cellules, c'est-à-dire de l'ADN. Il peut être dû à une exposition répétée à un carcinogène, c'est-à-dire à une substance qui va induire un cancer. Et ce carcinogène peut provenir de notre environnement. Le cancer peut provenir également de notre mode de vie par une consommation excessive de tabac ou encore d'alcool, ou On peut également développer un cancer suite à une mutation congénitale d'un ou plusieurs gènes. Par rapport aux cellules normales, les cellules cancéreuses se caractérisent par leur malignité, c'est-à-dire qu'elles vont s'exprimer par 6 propriétés physiologiques ou encore 6 altérations. Elles ont une capacité de croissance exagérée, c'est-à-dire qu'elles ont leur propre autosuffisance en facteur de croissance. Elles vont présenter une insensibilité aux inhibiteurs physiologiques de la croissance cellulaire. Elles vont également présenter un échappement à l'apoptose. Et par rapport aux cellules normales, elles vont avoir la capacité de division illimitée. Elles vont pouvoir induire leur propre système de vascularisation, c'est-à-dire d'angiogénèse, ou elles vont encore pouvoir se disséminer dans d'autres tissus. Donc le but des agents anticancéreux utilisés en chimiothérapie est d'atteindre les cellules tumorales pour les détruire sans toucher, du moins le moins possible, aux cellules normales. Donc les cibles pour empêcher la multiplication cellulaire correspondent principalement à l'ADN. L'ADN, il a un rôle capital dans la vie cellulaire. Donc, suivant la nature des molécules, elles vont avoir un mécanisme d'action différent. Les agents alkylants vont agir par liaison à l'ADN. Les intercalants et les inhibiteurs de topoisomérase vont interagir avec les systèmes de réparation. Les antimétaboliques vont bloquer la biosynthèse des constituants de l'ADN. Ou encore les antimitotiques vont perturber le fuseau mitotique. Donc il existe d'autres approches qui consistent notamment à restaurer le phénomène d'apoptose ou encore à restaurer les systèmes du cycle cellulaire, à inhiber l'angiogénèse ou encore à intervenir au niveau des voies de signalisation. Pour soigner les cancers, il existe deux grands types de traitements. Les traitements locaux-régionaux qui vont agir directement sur la tumeur, c'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques comme la chirurgie, la radiothérapie ou la photothérapie. Et les traitements systémiques, eux, sont des traitements qui ne sont pas ciblés. Ils correspondent à l'utilisation de l'hormonothérapie, l'immunothérapie ou encore la chimiothérapie. Et bien souvent, les deux traitements, les différents traitements locaux-régionaux et systémiques, ne sont généralement couplés. Alors la chimiothérapie, c'est un traitement médicamenteux qui va être utilisé afin de soigner le cancer en bloquant la prolifération cellulaire, en réduisant la taille de la tumeur et en prévenant la formation des tumeurs secondaires. La découverte de nouveaux agents chimiothérapeutiques passe par la découverte de molécules bioactives avec une structure originale. 60% des anticancéreux actuellement sur le marché ont pour origine un produit naturel. Mais on estime à simplement à 1 pour 1000 le rapport des produits naturels dérivés d'organismes marins par rapport aux produits naturels dérivés d'organismes terrestres. Donc la pharmacopée sous-marine reste à découvrir. Et l'utilisation d'organismes marins en cancérologie reste encore très limitée. Les premières études de pharmacologie marine datent de 1950. Et bien que le potentiel marin soit considéré comme 100 fois plus important par rapport au milieu terrestre, il n'a pas encore été exploité à sa juste valeur. Il semble que la vie soit apparue dans les mers il y a plus de 3,8 milliards d'années, alors que la vie terrestre date de 400 millions d'années. Les océans couvrent près de 70% de la surface du globe et ça correspond aux plus grands écosystèmes et aux plus anciens. Quelques groupes zoologiques et botaniques se sont adaptés à l'eau douce par les estuaires et dans les rivières, et certains groupes se sont adaptés à la vie terrestre, aérienne. Donc l'évolution a élaboré des écosystèmes marins éminemment complexes, multiples et dynamiques. Et le littoral est la zone où se concentre la biodiversité. On estime que les océans renferment 80% des ordres zoologiques et seulement 15% des espèces. Au cours de ces 10 dernières années, 6000 espèces marines ont été découvertes par près de 3000 chercheurs. Et on estime encore à 1 à 10 millions d'espèces marines qui sont encore inconnues. Donc ces écosystèmes marins sont d'autant plus particuliers qu'ils ont réussi à se développer en absence de lumière, c'est-à-dire que Il n'y a pas de phénomène de photosynthèse dans des températures qui peuvent être extrêmes, soit développement de micro-organismes près de sources froides ou de sources très chaudes, ou encore sous de fortes pressions. La biodiversité marine est beaucoup plus riche que la biodiversité terrestre, non pas en termes d'espèces, mais plutôt en termes d'adaptation génétique et génomique. Et cette biodiversité est étroitement liée à la chimiodiversité. De nombreux organismes marins n'ont pas d'équivalent terrestre, et de nombreuses molécules marines libérées par ces organismes marins n'ont également pas d'équivalent terrestre, alors que les molécules terrestres ont toutes des cousins d'origine marin. Alors, par exemple, comme molécules particulières, on peut citer les polysaccharides, qui sont extraits de végétaux marins rouges et bruns et qui sont utilisés dans l'industrie alimentaire comme additifs et qui servent de gélifiants ou épaississants. Et c'est le cas notamment de tout ce qui est alginate, agar-agar ou encore des carrégénanes. Les organismes marins, comme les invertébrés, les coraux, les éponges, sont d'excellentes sources de molécules bioactives, donc potentiellement également anticancéreuses. Ces espèces sessiles, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui sont soit fixées sur un support ou qui se déplacent très lentement, pour la plupart, elles ne possèdent pas d'appareil de vision, savent se défendre des prédateurs présents dans le milieu en libérant des molécules très actives que l'on va pouvoir qualifier d'armes chimiques. Dans l'eau de mer, le milieu est très dilué, donc les substances qui sont libérées sont considérées comme des petits poisons. Et les substances naturelles isolées de ces organismes ont des structures chimiques rarement observées dans le milieu terrestre. Cela provient de la composition de l'eau de mer. En plus des atomes de base comme le carbone, l'hydrogène, l'azote ou l'oxygène, on va retrouver des éléments tels que des halogènes, chlore, brome, iode ou encore du soufre, du silicium, de l'arsenic, du sélénium. Et ces éléments sont très peu retrouvés dans les métabolites des organismes terrestres. La biodiversité marine est étroitement liée à la chimiodiversité. Et l'originalité de la chimiodiversité marine est source également d'une nouvelle pharmacodiversité. Il a été constaté que les molécules isolées du milieu marin présentaient des mécanismes d'action particuliers, encore peu retrouvés avec les autres molécules anticancéreuses connues. Les médicaments utilisés actuellement en chimiothérapie sont fortement cytotoxiques et encore trop peu ciblés sur le plan cellulaire. D'où l'intérêt des chercheurs pour le développement de nouvelles molécules bioactives issues du milieu marin. La découverte de nouvelles molécules marines à visée thérapeutique peut emprunter plusieurs voies complémentaires, par l'exploitation de la biodiversité marine au sens large, c'est-à-dire par une collecte suivie d'un triage sur la base des tests biologiques de tous les organismes qui seront récoltés au cours de campagnes à la mer, puis isolement, identification de ces substances et développement industriel des produits responsables des activités repérées lors du triage. Cette approche est d'autant plus performante du fait de l'utilisation d'automates de triage que l'on appelle HTS. Et l'intérêt de cette démarche réside dans sa forte capacité d'innovation, la principale contrainte étant seulement la production industrielle de molécules dont les structures, comme on l'a vu précédemment, sont souvent complexes et parfois difficiles à reproduire par synthèse. On peut encore exploiter les biomasses disponibles, notamment, c'est le cas notamment avec les algues brunes, les poissons non commerciaux, les résidus de l'industrie des pêches. Il s'agit dans ce cas plutôt de fournir des produits valorisables pour la nutraceutique. Ifremer développe également l'exploitation des biomasses générables, c'est-à-dire l'exploitation de cultures de bactéries, par exemple issues de sources hydrothermales, développées pour l'obtention d'exopolysaccharides ou d'enzymes qui seront susceptibles d'applications industrielles ou médicales. Entre la découverte d'une molécule bioactive et sa mise sur le marché comme médicament, il peut s'écouler une bonne vingtaine d'années. Et ce n'est qu'après les multiples étapes du développement préclinique que les premiers essais thérapeutiques sur l'homme peuvent être réalisés. On parle alors de développement clinique. Et ce développement clinique se fait en différentes phases. La première phase en cancérologie concerne l'administration du nouveau traitement expérimental à un petit nombre de malades. On évalue alors la dose maximale tolérée et sa toxicité. Lors de la deuxième phase, on va déterminer l'efficacité de ce traitement sur différents types de cancers et sur un panel plus important de malades. La dernière phase correspond à la détermination de l'efficacité du nouveau traitement comparé à celle du meilleur traitement connu, et ce sur plusieurs milliers de groupes de patients identiques pour établir une différence. À l'heure actuelle, seuls deux médicaments anticancéreux d'origine marine sont sur le marché. D'autres molécules sont en phase de développement clinique. En 1998, 35 molécules nouvelles étaient identifiées et caractérisées. 8 ans plus tard, en 2006, 136 produits naturels d'origine marine et avec des structures différentes étaient référencés. Ces molécules provenaient d'invertébrés, de bactéries et de moisissures. Et depuis 5 ans, le développement de la pharmacopée marine ne cesse de croître de manière exponentielle. 10 molécules marines sont actuellement en développement, en phase clinique 1, 2 ou 3, et les molécules qui sont sur le marché sont la cytarabine, qui a été commercialisée dès 1969, et la trabectine en 2007 sur le marché européen. Les leaders dans le développement des molécules marines en cancérologie sont Pharmamar, un groupe pharmaceutique espagnol qui est spécialisé dans la biotechnologie marine. L'utilisation d'organismes marins en cancérologie reste assez limitée. Il s'est écoulé plus de 50 ans entre la découverte de la cytarabine et du iodédis. Le premier médicament anticancéreux d'origine marine, et donc la racée, c'est un composé de synthèse très proche d'un nucléoside naturel, la spongouridine, qui a été isolée d'une éponge Tetia crypta. C'est un composé qui a été utilisé contre la leucémie. Le iodélis présente une structure beaucoup plus complexe. C'est une tétraisoquinoline où l'on peut constater la présence d'un atome de soufre entre deux cycles. Ici sont représentées les structures chimiques de quatre molécules particulièrement prometteuses. On peut constater une diversité structurale assez exceptionnelle, très complexe, qui peut être associée également à une diversité, à une pharmacodiversité tout aussi exceptionnelle. Le iodélis, dont nous avons parlé précédemment, est un agent alkylant et il agit également comme inducteur d'apoptose. L'érébuline mésylate, que l'on appelle encore l'alicondrine B, est isolée d'une éponge et c'est un macrolide. Cette molécule se fixe à la tubuline et empêche la dépolymérisation des microtubules. Elle agit comme antimitotique. Le zalipsis est une molécule de synthèse inspirée de la joromycine et elle agit comme agent alkylant. Le marimoside est une molécule beaucoup plus simple, inhibiteur du protéasome mais également inducteur d'apoptose et il est isolé à partir d'une bactérie marine. Nous pouvons revenir sur le iodélis. Donc, c'est un composé efficace contre les sarcomes, les cancers du sein, de l'ovaire et du poumon. Il a également été montré qu'il bloque le gène MDRI qui est responsable de la résistance de certains patients à certains anticancéreux connus. Du fait de problèmes d'approvisionnement à partir de l'acidie, le iodélis est désormais produit par hémisynthèse, c'est-à-dire à partir d'un intermédiaire, la cyanosafracine, qui est extraite après fermentation de la bactérie marine Pseudomonas fluorescens. Il est à noter qu'un brevet de synthèse a été déposé à l'Institut de chimie des substances naturelles de Gif-sur-Yvette. Je vais maintenant vous présenter quelques résultats obtenus au sein du laboratoire dans le cadre de la thèse de Virginie Pasquier, thèse qui était financée par la Ligue contre le cancer. Nous avons mené des recherches bioguidées de molécules anticancéreuses issues de microalgues marines. Les microalgues marines sont des micro-organismes unicellulaires de type procaryote, dans le cas des cyanobactéries, ou eucaryote. On estime entre 40 000 à 200 000 le nombre d'espèces. Ces microalgues marines sont un vivier de molécules bioactives encore très peu explorées. Les invertébrés marins possèdent une flore qui inclut des bactéries, des microalgues et des moisissures. De nombreux métabolites secondaires retrouvés chez ces invertébrés proviennent de cette flore. L'exemple le plus connu est la mise en évidence de dolastatine, un des agents déstabilisants des microtubules. Et les dolastatines ont été isolées initialement du mollusque Dolabella auricularia. En réalité, ces dolastatines proviennent de cyanobactéries. Ici sont représentées également quelques structures qui permettent de mettre en évidence l'importance des microalgues en tant que source de molécules anticancéreuses isolées de diatomées, d'inoflagellés ou encore de cyanobactéries. Pour mettre en évidence de nouvelles molécules anticancéreuses, nous avons adopté une démarche bioguidée, c'est-à-dire par fractionnement, sur des extraits de microalgues marines qui présentaient une activité antiproliférative. Pour ce faire, nous avons également mis au point une nouvelle méthode d'extraction des microalgues, notamment sous irradiation micro-ondes. Afin d'isoler d'autres pigments microalgaux, potentiellement anticancéreux, nous avons développé des méthodes de séparation, notamment par HPLC, chromatographie liquide haute performance, ce qui nous a permis d'analyser et de purifier les molécules les plus actives. En conclusion, nous pouvons dire que les océans sont une source exceptionnelle de molécules biologiquement actives, donc potentiellement anticancéreuses, sur une grande variété de cibles moléculaires. Les molécules marines antitumorales présentent une grande diversité chimique avec une structure souvent complexe. Ces molécules peuvent servir de modèle pour des analogues ou des dérivés plus simples, actifs sur les mêmes cibles pharmacologiques. Attention, la ressource marine n'est pas inépuisable. Pour pallier aux problèmes d'approvisionnement et éviter d'épuiser la ressource, il faut absolument protéger la biodiversité en trouvant notamment de nouvelles voies de synthèse chimique ou d'hémisynthèse pour accéder aux molécules les plus prometteuses. Il est également difficile d'identifier avec certitude le producteur du métabolite. L'investissement des recherches de pharmacologie marine sont considérables, mais les molécules identifiées présentent des activités originales et un intérêt thérapeutique majeur. Je vous remercie de votre attention. Je tiens également à remercier les membres de l'équipe Molécules à activité biologique du laboratoire Lien, la Ligue contre le cancer qui nous soutient financièrement, ainsi que le docteur Jean-Paul Cadoré de l'IFREMER du PBA de Nantes. Merci.
Merci. Donc, ben, je ne sais pas si vous voulez revenir tous les trois donc, sur le devant de la scène. On va passer maintenant à la partie questions. Il y a qu'une hôtesse va circuler parmi vous pour prendre votre question. Merci de bien vouloir utiliser le micro, s'il vous plaît.
Bonsoir. À propos de la dernière intervention... Quand on a un matériel biologique comme ça, assez anecdotique, dans le sens où peu de personnes ont accès à ce genre de matériaux, je me demandais si votre laboratoire n'utilisait ces molécules isolées uniquement dans un but anticancéreux ou bien s'il était aussi utilisé dans les autres domaines de recherche médicale comme une recherche d'antibiotiques. Enfin, est-ce qu'on cherchait d'autres actions ou est-ce que chaque labo traitait son type de recherche ?
Au sein du laboratoire, on a une plateforme de screening à la fois d'antibactériens. Donc, on les teste également en antibactériens et sur lignées cellulaires. Voilà. Donc, même si on recherche une activité anticancéreuse, on les teste sur les tests qui sont disponibles, un peu comme a présenté M. Limoges.
Je continue. Si du coup on arrive à avoir des tests qui permettent de vérifier la toxicité de certains produits qui sont issus de milieux naturels, aussi bien marins que végétaux, est-ce que ces tests, donc plus ou moins fiables, sont obligatoires quand on met un nouveau produit qu'on a testé, enfin qu'on a créé par synthèse? Comme on a beaucoup d'interrogations actuellement sur tous les plastiques, les composants volatiles, et des choses comme ça. Est-ce que ces tests sont obligatoires avant la mise sur le marché, non pas d'un médicament, mais d'un produit de construction ? Un matériau, la chaise, l'école qui l'a utilisé, etc. Il y a aucun. On a des tests donc, où on peut vérifier la dangerosité du produit et on ne les fait pas sur. Oui, par exemple.
Ouais. Oh bah, ceux qui travaillent dans le bâtiment, oui, actuellement, les molécules sont.
Une grosse partie d'évaluation chez l'homme. Tous les matériaux qui sont mis sur le marché, ne subissent pas tous ces tests-là chez l'être humain pour connaître sa cytotoxicité. Et puis il n'y a pas le même système de pharmacovigilance a posteriori par rapport à une molécule qu'on introduit directement chez l'homme. Donc non, il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est vraiment après coup, on dit oh là là. Tous ces gens qui sont malades, qu'est-ce qui se passe ? Il faut supprimer l'amiante comme isolant.
Sauf que maintenant, on regarde quand même s'il ne libère pas le formaldéhyde, etc. Ouais. Ça,
mais des molécules toxiques connues.
Ah oui,
mais la toxicité d'une molécule nouvelle qui n'est pas utilisée comme médicament, finalement, on la découvre qu'a posteriori, avec une toxicité à long terme, sur un certain nombre d'individus. Pour un anticancéreux, il y a 100 000 candidats au départ, 100 000 molécules. Il n'y en a qu'une seule qui devient un médicament. Et le processus, on estime que ça dure entre 12 et 15 ans. Et je crois que je ne me trompe pas si je dis qu'il faut dépenser entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Hein, c'est à peu près ça.
C'est pas la somme, mais pour le temps, c'est ça, le Taxol. Premier essai clinique 83, il est sur le marché en 93. Les premiers essais cliniques, donc tout ce qui s'est fait avant d'un point de vue encore plus fondamental.
Je crois qu'il y a un exemple aussi à Poitiers avec Javelor qui a été commercialisé. Je crois que le brevet donc sur la molécule a été pris en 92 et le composé a été commercialisé et utilisé chez l'homme en tant que médicament en octobre 2009. Et c'est pas un bon exemple.
Oui, il y a quand même une précision à apporter, c'est que dans le domaine anticancéreux, le développement est plus rapide que dans les autres domaines, parce que la phase 1, qui normalement s'exerce sur des volontaires sains, bien évidemment, vu la toxicité des molécules, on la passe plus ou moins et on fait une phase 1-2, donc on gagne du temps au départ. Et sur des molécules qui sont en développement actuellement, on estime qu'on peut aller jusqu'à la fin, on va dire en 7 ans plutôt qu'en 10 ans, dans des cas optimistes.
Je vais ajouter un truc, c'est pas forcément une réussite, parce qu'on a beaucoup d'exemples récents où justement il y a eu des procédures accélérées avec des nouvelles thérapies ciblées, où le Mylotarg par exemple, qui a été mis sur le marché en 2003, qui a été retiré en 2010, et ce médicament avait subi une procédure accélérée de mise sur le marché.
J'avais une question pour ma collègue. Donc, puisque les molécules d'origine marine, souvent, procèdent de mécanismes différents, est-ce que la chimie, lorsque vous faites de la synthèse derrière, est différente aussi, ou est-ce que ça reste une chimie classique ?
C'est une chimie classique, nous, ce qu'on fait. Modification structurelle. Ouais. Assemblage, modification. Sauf qu'on intègre actuellement de plus en plus, mais ça c'est dans tous les domaines de la chimie, des procédés qu'on va appeler plus verts. Donc utilisation plus d'enzymes, de biocatalyse. Voilà. Mais c'est toujours de la chimie classique.
est-ce que, comme on est tout au début pour les molécules qu'on le retrouve dans les produits marins, est-ce qu'on a espoir que ça sera plus efficace pour guérir les tumeurs, je veux dire?
Bah, on a toujours espoir de trouver la molécule la plus efficace, celle qui agit plus poison, mais sans toucher au reste.
Comme il y en a très peu, cette petite quantité, est-ce que vous avez trouvé que c'était plus efficace, ça guérissait plus de cancers?
Ah, nous, on n'a pas...
Si je peux me permettre de répondre, en fait, quand on regarde l'évolution des molécules qui ont été testées en chimiothérapie anticancéreuse, les molécules, les dernières molécules, sont des nouvelles molécules. Donc, en fait, le fait d'augmenter le nombre de molécules que l'on connaît augmente les chances de tomber, par hasard, entre guillemets, sur une molécule plus efficace. Et, comme tu l'as dit, la mer est une source d'inspiration au niveau diversité moléculaire incroyable. Je crois que c'est 70% des molécules qui sont issues du milieu marin. 70% ?
Non, 60% des molécules naturelles. 60%
des molécules naturelles.
Elles sont moins toxiques que toutes celles qu'on a eues jusqu'ici, les molécules.
Non, elles ne sont pas moins toxiques, en fait.
Elles sont plus efficaces et elles détruisent moins de globules blancs, en fait, si on veut dire.
Je ne crois pas non plus. en fait ouais. Mais si vous voulez, ce n'est pas parce que les molécules viennent de la mer qu'elles sont plus efficaces. En fait, c'est vraiment une source d'inspiration de nouvelles structures. Et est-ce que ces nouvelles structures vont interagir de façon plus sélective avec différentes cibles? On ne sait pas. Mais comme elles sont nouvelles, vous savez, ce qui me rend dernier, c'est l'espoir. Donc,
Par contre, ce qui peut être intéressant également dans les molécules de la mer, c'est comme les organismes qui vivent dans les bas-fonds. C'est des molécules, ils n'ont qu'un petit squelette très flexible, qui résiste à fortes pressions, etc. Ils ont également des capacités, certains organismes, par exemple, à se régénérer. Donc on peut espérer dans les prochaines années, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, bah justement à réussir à recréer des systèmes cellulaires, la régénération cellulaire, à réparer. Ça peut être des progrès de la thérapeutique. C'est les nouveaux espoirs qu'on peut formuler.
C'est déjà beaucoup, oui. C'est déjà...
En fin de compte, toutes les propriétés extraordinaires de ces organismes marins, elles ont des propriétés qu'on n'expliquait pas avant. Donc on va essayer de les extrapoler et de s'en servir comme modèle.
On va s'y placer. C'est plein d'espoir déjà.
Ah oui. Mais c'est que le début de la recherche.
C'est parce que c'est à propos du cancer du poumon, là. Parce que c'est un cancer délicat. Alors, je sais que c'est très difficile à guérir une fois. Même avec les tabacs plus récents, là, c'est encore plus nocif. C'est plus difficile à guérir, je veux dire. Alors, est-ce que ça avance là-dedans ou il n'y a pas d'avancée ou... Ouais, parce que ça fait 19% des morts hein, en cancer, tout ça. C'est... Alors, je ne sais pas.
Il y a eu une greffe là récemment, mais je ne suis pas médecin. Il y a eu la greffe.
Il y a un inhibiteur de tyrosine kinase.
Il y a un inhibiteur de tyrosine kinase qui est une nouvelle molécule qui a été utilisée sur un certain type de cancer du poumon qui permet de prolonger la durée de vie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de traitement efficace contre le cancer du poumon.
Reprendre, merci déjà pour tout, mais donc vous parlez de découvertes très empiriques finalement, extraordinaires, et si l'on reprend par le mécanisme que l'on recherche pour être vraiment cellule tueuse, comme le deuxième exposé pour les fusées, etc. Pour les fuseaux, pardon. c'est une voie de recherche un petit peu différente. C'est beau, c'est bien, on extrait la perforce, elle fait quelque chose, mais chemin inverse. Et si l'on partait de ce que l'on veut particulièrement comme mécanisme devenir exprimé dans la molécule anticancéreuse par cette autre voie, comment le pourrait-on, à partir des propriétés que l'on connaît, alors des différentes molécules chimiques existantes, etc.
C'est le très délicat.
Le modèle de 30 médicaments pour les antiépileptiques, on a eu plein d'empiriques et plein sur des modèles de cellules épileptiques, etc.
Alors déjà, les processus cancéreux, les processus tumoraux sont des processus qui sont très compliqués. Vous avez vu déjà dans ce qui vous a été présenté dans les deux autres exposés que les mécanismes pour stopper les tumeurs, pour enrayer la prolifération des cellules cancéreuses sont variés. Donc déjà, ça c'est difficile, c'est pas un mécanisme. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on a beaucoup utilisé, vous avez raison, des méthodes empiriques ou des méthodes de criblage ou des méthodes de recherche bioguidée. On peut faire, c'est déjà moins empirique parce qu'on part déjà de quelque chose quand on travaille sur les plantes, qu'elles soient d'origine végétale ou marine. On travaille sur des extraits de plantes. On ne va pas chercher toutes les molécules et puis regarder celles qui sont efficaces. Ma collègue vous l'a expliqué, finalement, ça revient à ça. Hein. On va diviser la masse de molécules, mettons, en 10 parties. On va tester les 10 parties. On va regarder si dans ces 10 parties, il y en a une qui a une activité qui nous intéresse. Et après, petit à petit, on va redescendre à la molécule. Après, essayer de penser à une molécule, c'est quelque chose, encore une fois, sur des processus cancéreux qui est très compliqué. On parlait de propriétés antioxydantes tout à l'heure, où les mécanismes sont plus simples. Là, avec des calculs de modélisation moléculaire, de chimie quantique, on peut essayer, on commence à savoir faire ça. J'avais quelques diapos supplémentaires si des fois je n'avais pas dépassé mes 20 minutes, mais on arrive à imaginer la molécule qui pourrait être efficace, mais c'est quelque chose de très, 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 très précis. Or, les processus cancéreux, eux, sont très, très complexes. Je vous parlais d'inducteurs d'apoptose, et derrière, ça fait 10 ans qu'on étudie les mécanismes de l'apoptose. Et il y a je ne sais combien d'équipes en France qui travaillent sur ces mécanismes de l'apoptose. C'est aussi une méthode de trouver des nouvelles molécules qui agissent effectivement là-dessus pour stopper la vascularisation des tumeurs. C'est un autre mécanisme d'action.
Il faut voir une chose, c'est que en fait, le fait de découvrir une cible, par exemple, qui va être spécifiquement associée à la malignité, de construire la bonne molécule qui va aller jusqu'à cette cible-là, c'est des choses qui sont faites en fait, et qui marchent dans certains cas. Le problème, c'est que toute cette modélisation, elle est faite de manière complètement isolée de tout le reste, de tout l'organisme. Et le dernier exemple, c'est le Vorinosta qui a été commercialisé en 2006, qui est un inhibiteur d'histone d'acétylase. À partir du milieu des années 90, il y avait des publications scientifiques qui expliquaient que voilà, le cancer s'était terminé. Il suffisait d'inhiber les histones d'acétylase avec des molécules et c'était une cible sélective et qu'on allait traiter le cancer sans effet secondaire. Il se trouve que ce médicament qui a été commercialisé en 2006 va peut-être être retiré du marché parce que cette molécule est effectivement très affine pour sa cible qui est une cible cancéreuse, mais elle est aussi affine pour d'autres cibles qu'on n'avait pas imaginées lorsqu'elle est introduite dans l'organisme. Et elle engendre des effets secondaires. Voilà. Donc c'est très très compliqué d'imaginer le comportement d'une molécule dans sa globalité, dans l'organisme entier.
Donc moi je voulais savoir comment s'organiser en fait la coordination des recherches. C'est-à-dire, est-ce que vous, de la région Limousin-Poitou-Charentes, vous êtes au courant de ce qui se passe à Montpellier, à New York? Est-ce que vous n'êtes pas à un moment donné sûr qu'il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui fait la même chose que vous et qui travaille sur les mêmes recherches et savoir où il en est, ou elle?
Alors, il y a un truc très simple. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des publications scientifiques qui sont accessibles à toute la communauté scientifique, ce qui nous permet de suivre en fait l'évolution du progrès des recherches dans le monde entier. Sauf que, en fait, quand on parle du médicament, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, il faut que les molécules soient brevetées pour qu'elles puissent intéresser les industriels. Si les industriels ne peuvent pas faire de l'argent avec cette molécule, ils ne la développent pas. Donc, en gros, les derniers développements, c'est des choses qui sont plutôt secrètes auxquelles on n'a pas accès.
Donc, c'est bien ce que je pensais.
Quand vous nous avez parlé des molécules d'origine marine, vous avez dit qu'une des spécificités, c'était le fait qu'elles intégraient des atomes qu'on ne retrouvait pas dans la chimie des molécules terrestres.
Oui.
Mais est-ce que ça, le fait qu'elles utilisent des atomes qui sont différents de la chimie des molécules terrestres, ne va pas représenter un frein par rapport à la synthèse, une difficulté supplémentaire
Non, parce que justement, ces hétéroatomes, soufre, sélénium, on sait les travailler. Et nous, par exemple, moi, je suis chimiste en hétérocycle. Je travaille sur la chimie du soufre, de l'azote, des composés oxygénés. Donc non, justement, c'est pas du tout un problème.
D'accord. Merci.
Au contraire, nous, on a des molécules qui, au départ, ont certaines propriétés et on sait les propriétés de ce type d'atome. Mais on va plutôt, nous aussi, greffer ces atomes-là en bout de chaîne ou dans des positions stratégiques sur nos molécules.
Au niveau de la thérapie ciblée, on a vu que dans le dernier exemple, qu'il y avait un vecteur qui permettait de rentrer dans la cellule grâce à la reconnaissance d'un récepteur spécifique qui était surexprimé chez les cellules cancéreuses. À quel point il est surexprimé et à quel point ça permet de cibler la thérapeutique ?
Ça dépend des cellules cancéreuses. Par exemple, on a montré que effectivement l'internalisation de ce vecteur-là était dépendante du nombre de récepteurs. C'est-à-dire que, en fait, il faut qu'il soit surexprimé à un certain niveau pour que le vecteur puisse être internalisé. Et par exemple, dans la LAM, hein, la leucémie myéloïde aiguë, il y a différents types de LAM et notre vecteur n'est pas internalisé dans des LAM de type 0, 1, 2 ou 3, par exemple, parce que le niveau de récepteur n'est pas assez important. On essaye d'estimer l'efficacité de notre récepteur en mettant au point un test qui va nous permettre de mesurer le nombre de récepteurs et on essaye de faire une corrélation avec l'efficacité pour ne pas donner, par exemple, un médicament à un patient pour lequel il ne serait pas efficace parce qu'il n'a pas le nombre de récepteurs suffisant. Mais pour l'instant, sur des types de leucémie myéloïde aiguë, on a des résultats qui sont intéressants en corrélation avec le nombre de récepteurs. Alors, tu voulais un chiffre en termes de nombre de récepteurs par cellule ? Alors, par exemple, on l'a testé sur des cellules de sang de patients sains, de personnes saines. Hein. On a pris notre sang directement, puis on a regardé. En fait, comme nos cellules ne sont pas pathologiques, elles ne surexpriment pas le récepteur. Et donc, en fait, notre vecteur n'est pas toxique sur les globules rouges et les globules blancs sains non plus. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être toxique pour d'autres organes. Par exemple, on sait que ce récepteur, il est exprimé d'une manière plus importante au niveau du rein, dans les cellules du rein. Donc, est-ce qu'on ne va pas engendrer une toxicité néphrétique lorsqu'on injectera ce médicament, si jamais un jour ça arrive, dans l'organisme entier? Ça va dépendre du taux d'expression de ce récepteur dans les cellules rénales. Est-ce qu'il va être suffisamment bas pour que on n'ait pas de cytotoxicité, ou est-ce qu'on va avoir une toxicité qui rendra le médicament inutilisable? On ne sait pas encore. Alors déjà, si jamais on n'a pas pris de brevet, c'est foutu. On peut pas. Les labos ne veulent pas le développer. Et aujourd'hui, sans test in vivo chez l'animal, on ne peut pas vendre. Enfin, c'est difficile de vendre un projet à un laboratoire. Donc il faut vraiment qu'on ait montré l'efficacité sur un organisme entier, sur la souris par exemple.
Parce que vous avez il y a une molécule qui a été découverte, il manquait, je sais pas quoi, vous avez changé un interverti de fonction en bout de chaîne. Et, ouais, et après, il y avait un cycle là, et vous avez cassé, il y avait une liaison qui était en moins. Et pourquoi ? Vous avez dit comme explication, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'essayer. Mais personne n'a... Quand même, ça pourrait, je ne sais pas. Et quand c'est votre domaine, c'est quand même étonnant que ça pourrait, vous cherchez des molécules partout, et puis là, vous avez une idée, vous ne la faites pas. C'est vrai,
vous avez raison. Mais hier, quand j'ai fait le diaporama dimanche soir, lundi matin, je suis arrivé au boulot, j'ai engueulé tout le monde. Oui.
Non, c'est pas ça.
Vous avez entièrement raison. Non, mais voilà, c'était une étude de structure-activité, mais vous avez raison, c'est tout à fait intéressant de faire ce travail-là. Il se trouve que ces molécules-là sont des molécules d'origine naturelle, mais qui sont à disposition dans le commerce. La molécule dont on aurait eu besoin pour faire cette dernière manip n'était pas disponible dans le commerce. Et vu nos programmes de recherche, ce n'était pas la priorité du moment. Ça nous demandait des compétences qu'on n'avait pas forcément à l'intérieur de l'équipe et peut-être pour un résultat qui, malgré tout, c'est pas ça qui allait révolutionner le traitement contre le cancer. Voilà, pour être très franc, c'est pas si je multiplie le taux d'apoptose, si je passe même de 6 à 15, c'est pas ça qui va faire de cette nouvelle molécule quelque chose d'un nouvel instrument thérapeutique. C'est faut pas oublier que le résultat que je vous ai présenté, comme l'ensemble des travaux qui sont faits dans l'équipe, sont quand même des travaux qui sont très fondamentaux, hein, qui se sont très en amont de ce qui est des essais cliniques ou des choses comme ça. Nous, ce qu'on fait dans l'équipe, on est vraiment sur l'étude des mécanismes. Voilà. Mais c'est à faire. C'est l'investissement, voilà, c'est le rapport entre l'investissement et le résultat qui fait que on a laissé tomber cette partie-là. Voilà.
Oui, bonsoir. Je voulais simplement saisir cette occasion pour vous dire deux choses. Aujourd'hui, ça marque la fin de ce cycle de conférences sur le cancer. Il y en a eu 3 cette année, au mois de janvier sur les concepts de base, au mois de février sur la thérapie cellulaire. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir d'accueillir des collègues à la fois de Poitiers, de Limoges et de La Rochelle qui forment le PRESS sur un aspect nouveau qui est les thérapies innovantes. Donc je voulais remercier mes collègues d'être venus de Limoges et de La Rochelle, mais aussi de Poitiers. Et je voulais remercier le public qui a assisté, qui a été très intéressé par ce débat. Et je pense que ça nous encourage à organiser à l'avenir d'autres cycles de conférences sur le cancer. Et j'espère à cette occasion-là de parler de traitements qui auront prouvé leur efficacité. Je vous remercie.